France Inter.
Merci et le prochain flash, ce sera dans une heure à 15h sur France Inter.
Si Kiki ne fait pas partie de l'espèce canine racée, par contre, c'est un spécialiste de la racine carrée.
Actuellement, vous entretenez combien de puces ?
J'ai toujours entre 150 et 200 puces.
Racine carrée de 4.
C'est désagréable, hein ? Même dans mes beaux placards de ma cuisine, j'ai des qu'à faire.
Et pour finir, sachez qu'un mammouth l'a échappé belle en Sibérie.
Dans d'autres civilisations que la nôtre, il est courant de parler aux animaux et même de chanter pour eux. En d'autres temps et en d'autres lieux, les non-humains sont comme les humains, dotés d'une âme, d'une subjectivité, d'une conscience morale. Philippe Descola va nous raconter un monde qu'il connaît bien, le monde des Achuar, un peuple de l'Amazonie équatorienne où le rapport avec les animaux ressemble à celui que l'on peut avoir avec des parents par alliance. Philippe Descola est anthropologue, disciple de Claude Lévi-Strauss, il a été professeur au Collège de France et il a passé plusieurs années aux côtés des Achuar. Les animaux non humains sont omniprésents dans son œuvre. Dans cet épisode également, le préhistorien Patrick Payet, spécialiste de l'art paléolithique, et l'historien Michel Pastoureau qui expliquera, entre autres, pourquoi il y a tant de lions sur les blasons. Partons avec eux sur la piste d'un rapprochement humain-non humain.
Les aventuriers sur France Inter.
Bonjour Philippe Descola.
Bonjour Fabienne Chauvière.
Alors certains peuples attribuent aux animaux des propriétés culturelles que nous, nous réservons aux humains. Et vous connaissez très bien ce sujet.
Oui, tout à fait. Je l'ai découvert, vous l'avez dit, en Amazonie équatorienne, en faisant un long séjour ethnographique chez les Achuar. J'ai mis un peu de temps avant de le découvrir, dans la mesure où il a fallu d'abord apprendre la langue qu'il parlait, et ce qu'il disait d'abord dans les rêves, lorsqu'il commentait leurs rêves le matin, et ces rêves étaient assez souvent des histoires de rencontres avec des plantes et des animaux sous forme humaine. Et l'autre moyen de communication avec les plantes et les animaux, c'était par l'intermédiaire de chants magiques qui s'appellent des anen, c'est-à-dire c'est des discours du cœur, et qui s'adressent directement au cœur, à la subjectivité des personnes végétales et animales, de façon à influer sur leur comportement. Et ces façons de procéder, bien sûr, je les ai découvertes et décrites en Amazonie équatorienne, mais au fil du temps, dans le travail comparatif que j'ai mené, je me suis rendu compte qu'il était extrêmement commun dans d'autres régions du monde, et j'ai appelé ça l'animisme.
Au Mexique, en Afrique, en Asie.
Il faut distinguer plusieurs façons de communiquer, si je puis dire, avec les animaux ou de leur faire jouer un rôle dans la vie sociale. Ce que j'ai appelé l'animisme est quelque chose qui est très présent dans les basses terres de l'Amérique du Sud, en Sibérie, dans certaines régions d'Asie du Sud-Est, dans certaines régions de Mélanésie. Ailleurs, les animaux ne sont pas tant considérés comme des personnes que comme des symboles ou des métaphores, ce qui ne les empêche pas d'appartenir à un collectif, d'être membre d'un collectif et à ce titre de jouer un rôle important dans ce collectif. C'était le cas par exemple au Moyen-Âge, vous avez évoqué tout à l'heure Michel Pastoureau qui a beaucoup écrit sur ces questions.
Et on l'entendra tout à l'heure.
Mais le rôle que l'on donne aux animaux n'est pas tout à fait le même. Dans les collectifs que j'appelle animistes, les animaux sont des personnes. C'est-à-dire que ce sont des êtres avec lesquels on entretient des rapports de partenaire à partenaire. On essaye d'obtenir d'eux des informations, on essaye de les séduire pour les chasser, bien sûr. Traiter les animaux comme des alter-ego ne signifie pas qu'on va les sacraliser.
On peut quand même les manger.
On peut quand même les manger. Mais cela dit, ça a des conséquences, et des conséquences importantes, en ce sens que dans l'archipel animiste, la plupart des maladies sont le résultat de la consommation d'animaux qui n'ont pas été suffisamment décontaminés de leur subjectivité, si je puis dire. Un animal a une âme, et lorsque l'on mange la chair de cet animal, on mange une partie de son âme. C'est-à-dire que c'est pas un cannibalisme ordinaire. C'est ce que disait un grand chaman inuit, Iwaluarjuk, lorsqu'il disait « Le grand péril de l'humanité, c'est que l'essentiel de notre alimentation est faite d'âme ». Et ces âmes rendent malades. Et c'est à ça, bien sûr, que servent les chamans lorsqu'ils vont dans les communautés animales pour négocier avec les esprits animaux de lâcher prise, en quelque sorte, lorsqu'ils se vengent sur les humains.
Racontez-nous encore, Philippe Descola, au Mexique, on dit que chaque fois qu'un humain naît, il y a un animal qui naît le même jour, en même temps, au même moment, et qu'ils vont avoir des vies parallèles.
Oui, alors on appelle ça le tona, c'est un double, et c'est quelque chose d'assez différent de ce que je viens de décrire, oui. En ce sens qu'il n'y a pas de rapport entre les deux, à la différence de l'animisme où les humains, les hommes en particulier, ont une interaction constante avec les animaux qu'ils chassent à la fois concrètement et dans leurs rêves et les incantations qu'ils leur adressent. Dans le cas du tona, on ne sait pas quel type d'animal est votre double. Et donc là, il y a une relation de correspondance entre un être humain et un animal qui est beaucoup plus caractéristique de ce que j'ai appelé des sociétés analogistes, parce que c'est l'analogie, le raisonnement analogique, au fond, qui fonde le rapport de correspondance entre humains et non-humains. C'était le cas au Moyen-Âge, c'est le cas dans une grande partie de l'Asie et de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, où les animaux sont plutôt vus comme à la fois des membres du collectif en général, mais plutôt des symboles ou des métaphores ou des incarnations de qualités humaines, ou quelquefois, comme c'est le cas du Mexique, comme des alter-ego, mais avec lesquels on ne peut pas entrer en communication.
Est-ce que étudier d'autres civilisations que la nôtre, comme celle des Achuars, peut nous aider à comprendre nos ancêtres préhistoriques, d'après vous ?
Alors c'est très compliqué parce qu'il y a une dimension temporelle très grande. On peut essayer par analogie de comprendre certaines techniques d'abord qui sont utilisées encore à l'heure actuelle par des chasseurs. Savoir ce que les hommes préhistoriques, comme vous dites, c'est-à-dire les hommes du paléolithique, pensaient des animaux, c'est beaucoup plus compliqué parce que on n'a que des traces visuelles, et ces traces visuelles se prêtent à toutes sortes d'interprétations contradictoires.
Alors on va avoir le point de vue de Patrick Payet, il est préhistorien au Muséum National d'Histoire Naturelle. Il est avec nous, Monsieur Payet, bonjour.
Bonjour.
Alors l'animal occupe une place très importante dans l'iconographie paléolithique, vous êtes un expert en art pariétal. Des animaux ont été peints par centaines dans les grottes, il y a plus de 30 000 ans. Est-ce qu'on peut en déduire des choses sur les rapports entre les humains et les animaux à cette époque ?
Alors, comme vous le soulignez, effectivement, l'art préhistorique est un art à dominante animalière. L'animal y est une composante fondamentale, même si les symboles géométriques abstraits y sont aussi très fréquents. En revanche, l'humain n'y apparaît que de manière très secondaire. Alors, l'art animalier montre effectivement un intérêt évident pour cet autre, l'animal, le non-humain, en quelque sorte, qui est à la fois différent dans son apparence, bien sûr, et peut-être semblable dans son intériorité, qui sait, mais là j'empiète évidemment sur le domaine de Philippe Descola. Les sociétés de la préhistoire étaient-elles animistes ? Je n'en sais rien, mais elles montrent, en tout cas, à l'endroit de l'animal, un attrait particulier, peut-être une communauté de pensée. Dans l'art, en particulier, vous parliez de l'art pariétal, mais il y a aussi l'art des objets, l'art mais mobilier, oui, qui est important aussi à intégrer. L'utilisation, par exemple, des dépouilles des animaux en matière dure, comme l'os, le bois, l'ivoire, comme des supports de représentation, notamment animale, construit, par exemple, une relation puissante, matérielle, et très certainement idéale, entre l'animal vivant, consommé, pensé et, in fine, représenté.
Alors, il y a des animaux qui sont plus représentés que d'autres, les chevaux notamment, ou les bisons. Est-ce qu'on peut en tirer des conclusions ? C'est vrai que c'est pas facile à 13 000 ans d'intervalle.
Oui, tout à fait. On peut en tirer des conclusions statistiques, si vous voulez, qui reviennent à dire qu'effectivement, l'animal central dans l'iconographie et dans la symbolique paléolithique était le cheval et les grands bovinés, mais le cheval en premier lieu. Cela veut dire qu'il existait entre cet animal et les sociétés qui le consommaient, qui le chassaient, et aussi qui le représentaient, une sorte de relation privilégiée, le cheval étant vraisemblablement au centre des mythologies, des récits, des cosmologies préhistoriques.
Patrick Payet, merci beaucoup pour ce témoignage. Philippe Descola, est-ce que ce qu'a dit Patrick Payet vous inspire des questions, des interrogations ?
Je me suis pas mal intéressé à l'art paléolithique, à la fois sous la forme pariétale et sous la forme de l'art mobilier. Et il suggère évidemment des analogies possibles avec des pratiques de société contemporaine. J'ai découvert il y a quelques mois, à l'occasion d'une conférence à l'université de Tübingen, dans le musée de Tübingen, des petites miniatures absolument bouleversantes de réalisme et de simplicité, qui représentent des animaux qui sont dans un état de, en particulier des oiseaux, de mouvement suspendu. C'est-à-dire que ces animaux sont manipulés et conservés par les chasseurs pour garder les animaux à l'esprit. Pourquoi ? Parce que ils sont à la fois très identifiables du point de vue physique, du point de vue de leur corps, on sait de quelle espèce il s'agit, et en même temps, le fait que soit figuré le mouvement suspendu indique chez eux une intention, et donc quelque chose de l'ordre de l'intériorité, de la capacité, au fond, à mener une vie autonome. Ce sont donc des êtres qui sont à la fois physiquement possibles à distinguer, et en même temps, qui ont une intériorité avec laquelle on peut communiquer. Et donc ce parallèle entre des pièces qui sont très anciennes, qui datent du paléolithique supérieur, si mes souvenirs sont bons, et des pièces contemporaines est intéressante. Donc des analogies de ce type-là sont possibles. Mais évidemment, la grande frustration des préhistoriens, c'est qu'il n'y aura jamais quelqu'un qui leur dira « voilà l'interprétation exacte ». Et c'est le plaisir de l'ethnographe de pouvoir parler avec des vivants et pas avec des morts.
Ouais. Et moi, je vous écoute avec passion et je réalise que nos sociétés occidentales contemporaines sont vraiment très loin des mondes que vous racontez. Et dans un instant, vous nous parlerez de votre enquête auprès des Achuar et en quoi cela a été déterminant. À tout de suite.
Let me tell you a story of a girl up in glory. She had the world in her hand. Even Hades was a fan. You can fake it for a little while when you're lying to yourself. You pretend and you try to hide from the cards that you've been dealt.
On écoutait Gabriels Glory.
Les aventuriers sur France Inter.
Philippe Descola, vous avez passé des années auprès des Atchouars. Les Atchouars, c'est une tribu d'Amérindiens de la haute Amazonie équatorienne. Vous avez vécu avec eux dans les années 70. Pourquoi cet endroit ?
Alors, l'Amazonie m'attirait pour plusieurs raisons et pour deux principales. Dès le début de la conquête, les premiers chroniqueurs manifestent leur perplexité vis-à-vis de ces populations en soulignant deux de leurs caractéristiques. D'une part, qu'il est très difficile d'identifier chez elles des institutions sociales du type de celles que l'on rencontrait soit en Europe, soit dans d'autres régions de la colonisation ibérique. Je pense évidemment aux Andes ou au Mexique, où il y avait des temples, un clergé, une administration, etc. Là, c'était des sociétés anomiques, comme on dit en sociologie, c'est-à-dire qu'il ne semblait n'avoir aucun principe régulateur. Les gens vivaient dispersés, et en plus sans chef, sans production de surplus économique, sans temple, sans religion apparente. Et en plus, ils se faisaient la guerre de façon assez systématique, ce qui a conduit les premiers observateurs à les dire ces gens-là sont très proches de la nature. Au fond, c'est une émanation de la forêt, et c'est une idée qui s'est prolongée assez tard. Alexandre de Humboldt, le grand savant allemand, disait des Waraos du delta de l'Orénoque au XVIIIe siècle, ils sont comme des abeilles, au fond ils sont hyper adaptés à leur environnement, qu'ils butinent comme des abeilles sans le transformer. Et cette façon de voir les choses a indiqué qu'il y avait un rapport à la nature tout à fait original dans des populations de ce type, et que au fond ils avaient probablement étendu les registres de leur vie sociale bien au-delà des humains pour y inclure des non-humains. C'est pour ça qu'il n'y avait pas d'institution sociale facile à identifier, parce que dans leur rapport avec les plantes et les animaux et les esprits, qui étaient des incarnations aussi des plantes et des animaux, se donnait à voir une sorte de sociabilité généralisée qui était intéressant d'étudier. C'est donc ça qui m'a conduit chez les Atchouars, qui à cette époque était l'une des tribus Jivaro, c'est le terme qu'on employait à l'époque, on l'emploie plus maintenant parce qu'il est dérogatoire, et qui n'avait pas encore été étudié.
Et les Atchouars ont un rapport très proche avec les animaux non humains, ils les connaissent très bien. Certains ont le droit d'être chassés, d'autres non. Certains peuvent être pêchés, d'autres non. Ils imaginent que au fond de la rivière, il y a des rapports particuliers entre les animaux.
Oui, alors c'est un paradoxe aussi, parce que non seulement les hommes en particulier, mais aussi dans une moindre mesure les femmes qui sont des cultivatrices plutôt que des chasseuses, les hommes depuis très jeunes apprennent à chasser. Or, apprendre à chasser, c'est pas uniquement apprendre à servir d'une arme, en l'occurrence ce sont des sarbacanes, c'est aussi apprendre à savoir où sont les animaux et ce qu'ils font et quelles traces ils laissent dans leur environnement. Mais c'est un savoir qu'on met très longtemps à acquérir, et je me suis aperçu que les meilleurs chasseurs étaient des hommes déjà d'âge mûr, qui avaient presque la quarantaine, alors qu'un adolescent est capable de vous nommer, de vous identifier plusieurs centaines d'espèces d'oiseaux, d'imiter leurs chants, de dire où ils vivent, ce qu'ils mangent, comment ils font leur nid, etc. Donc un savoir éthologique et zoologique absolument extraordinaire, mais qui ne devient intégré et efficace que progressivement, lorsque la totalité de ces informations s'enchaîne de façon implicite en quelque sorte, et permet de suivre une trace ou une piste animale.
Donc, vous-même, vous les avez accompagnés à la chasse.
Oui, je les ai accompagnés. Ils étaient assez réticents, de façon compréhensible, parce que quelqu'un de maladroit qui effraie les animaux en faisant du bruit et qui est incapable de déchiffrer ces signes dont je parlais, même si j'ai appris progressivement avec eux à en déchiffrer quelques-uns, n'est pas toujours un compagnon de chasse particulièrement souhaitable. Mais ce qui est intéressant, c'est que, en fait, il développe une double compétence, qui est à la fois une compétence technique, celle dont je viens de parler, et puis cette compétence qu'on pourrait appeler morale ou subjective, et qui vise à entretenir avec les animaux chassés un rapport de partenaire, d'alter ego, et qui leur... Par exemple, à travers les chants, je vais vous donner un exemple, il y a de très nombreux chants magiques qui sont chantés mentalement, qui s'adressent à l'âme d'un animal. Et donc, dans toutes les circonstances de la chasse, un chasseur aura à sa disposition un chant qui permettra d'agir sur l'animal qu'il poursuit.
Il ne chante pas, il le chante dans sa tête.
Il le chante mentalement, voilà. Il peut le siffloter, éventuellement siffloter l'air, mais les paroles sont chantées mentalement. Et l'un de ces exemples de chants, c'est que si vous tirez un singe à la sarbacane, ce sont des flèches qui sont enduites de curare et elles sont incisées. La pointe est incisée de façon à ce que lorsque un singe retire la flèche qu'il a atteint, la pointe va rester dans son corps et le curare va faire son effet. Et il peut arriver que l'animal meure en quelque sorte sans tomber de l'arbre où il était du fait de ce dispositif. Donc il y a des chants qui sont destinés à influer sur l'animal qui est pourtant déjà mort en principe ou qui est mourant pour qu'il tombe de l'enfourchement où il est fixé au pied du chasseur pour que le chasseur n'ait pas à grimper dans l'arbre pour le ramasser. Donc il y a un répertoire extrêmement vaste de techniques idéales en quelque sorte qui viennent se combiner aux techniques matérielles et aux savoirs éthologiques pour permettre ce rapport avec les animaux.
Philippe Descola, est-ce que tout ça a changé votre enquête, les années que vous avez passées auprès des atchouars, est-ce que ça a changé votre regard sur les animaux ?
Ça a changé le regard que je porte sur le monde d'une manière générale et celui que je porte sur les animaux, bien sûr. D'abord, le terme même « les animaux » est compliqué oui. Parce que l'une des choses que les anthropologues ont mis en évidence, c'est que le terme « animal » comme une catégorie englobante équivalente à « plante » par exemple, est très rare dans la plupart des langues du monde. Il est commun dans les langues européennes. Et donc, on ne peut pas parler du rapport entre les humains et les animaux chez les Atchouars, comme c'est le cas dans beaucoup d'autres civilisations, parce qu'il n'existe pas cette abstraction. On peut parler des rapports avec telle ou telle espèce animale, qui a telle ou telle caractéristique, qui occupe telle ou telle place concrète et symbolique dans la vie des humains, mais pas l'animal en général, qui est une sorte de fiction philosophique, de même que la nature est une fiction philosophique, parce que c'est une abstraction. Le terme même n'existe pas dans la plupart des langues autres qu'européennes. Et donc, on ne peut pas dire qu'il y a des rapports singuliers de telle ou telle population avec la nature ou les animaux, parce qu'encore une fois, ce sont des abstractions. Donc, il faut considérer les rapports espèce par espèce. Et de ce point de vue-là, il y a une grande diversité, bien sûr, entre les animaux chassés et ceux qui sont prohibés. Il faut aussi, d'une manière plus générale, distinguer entre les civilisations qui sacrifient, par exemple, qui tuent des animaux domestiques, qui deviennent des médiateurs entre les humains et puis des divinités, et le rapport aussi entre les différentes formes d'élevage. Chez les Atchouars, les Atchouars n'ont jamais essayé de reproduire en captivité les animaux qu'ils apprivoisent, à la différence de ce qui se passe dans d'autres régions du monde avec les techniques classiques d'élevage que l'on connaît.
Pour faire suite à la question que je vous posais tout à l'heure, est-ce que ça vous a changé ? J'ai cru comprendre que vous dialoguez parfois avec les oiseaux, c'est vrai ?
Je dialogue, c'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir un bureau dans une sorte de cabanon au fond d'un jardin et au pied d'un pommier qui est fréquenté par de nombreux oiseaux et en particulier par des rouges-gorges, par des mésanges, par des sittelles. Et le rouge-gorge qui est résident, si je puis dire, comme il y en a dans tous les jardins, j'ai l'impression qu'il vient me rendre visite et prendre de mes nouvelles chaque matin. Et donc nous avons un échange quotidien qui me ravit, je dois dire.
Je vous comprends. Il n'y a pas que chez les Atchouars que l'on considère vraiment les animaux.
Les Aïnous, établis au nord du Japon et sur l'île de Sakhalin, ont toujours gardé à l'ours une place prépondérante dans leur culture, l'animal étant non seulement ancêtre totémique, mais aussi dieu suprême. L'ours est une divinité des plus révérées, tout particulièrement en décembre lors de la fête de l'ours. L'animal y est réputé descendre sur terre et donner ses cadeaux aux humains qui l'accueillent, avant de retourner dans son univers divin. L'ours est aussi au centre de chasse rituelle. Lorsqu'une femme Aïnou perd un enfant, il arrive qu'un ourson soit capturé bébé et nourri au sein. Il est ainsi élevé durant 3 ou 4 ans, où il devient un membre à part entière du clan, puis sacrifié, avant que sa chair ne soit consommée lors d'un banquet. Traditionnellement, les tribus Aïnou s'approprient ainsi la force et toutes les qualités de l'animal, particulièrement en mangeant sa patte antérieure gauche, mais aussi sa langue, son museau, ses oreilles, son cœur ou son foie.
Ma vie, je quitte mon père. La ville attend des petits rats des champs. Une jolie fermière me dit: où vas-tu? Monte derrière avec les laitues. Les pieds dans le ciel, chez les hirondelles. Nous filons doux et la route est à nous. Petit, la vie est belle à l'école buissonnière. Nous irons danser bal des oiseaux près de la rivière. Les prés sont verts. Quel âge as-tu, toi? Morceau de pain. La campagne se prête à tout, mais la ville pas du tout. Nous irons danser au bal des oiseaux près de la rivière.
Bal des oiseaux, c'était Thomas Fersen.
Les Saventuriers, une émission de Fabienne Chauvière sur France Inter.
Quels sont les rapports que les humains entretiennent avec les autres animaux? C'est le sujet de cette émission et nous sommes avec Philippe Descola, anthropologue. Philippe Descola, vous avez passé plusieurs années auprès des Atchouars. Qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un décède? Il ne décède pas complètement pour eux.
Non, c'est rare d'ailleurs dans l'humanité que les gens décèdent complètement. Un peu partout, il y a des composantes de la personne qui subsistent d'une façon ou d'une autre et qui ont des destinées extrêmement différentes. Chez les Hatchoirs, la personne subsiste sous forme d'un esprit et certaines parties de son corps viennent former des espèces animales.
Exemple.
Alors, les poumons, par exemple, deviennent un papillon morpho, ce sont ces très beaux papillons bleus, et d'autres parties du corps se transforment en d'autres espèces animales. Les Hatchoirs, d'une façon générale, sont pas très attentifs à ce qui se passe après la mort, sauf que c'est quelque chose de négatif. Et je pense que c'est quelque chose d'assez général, un peu partout dans le monde. Après tout, même le christianisme qui a beaucoup développé cette question, il a fallu tardivement qu'il invente le purgatoire comme une sorte d'élément intermédiaire, même si ça jouait un rôle important dans l'iconographie, notamment médiévale. La destinée des humains après la mort, un peu partout, est soumise, au fond, à des interprétations contradictoires. C'est le cas aussi chez les Hatchoirs. Assez souvent, quand je posais des questions aux Hatchoirs, ils me disaient « on ne sait pas très bien, et toi, qu'est-ce que t'en penses ?»
Ah oui ?
Oui, et c'est vrai que c'est un domaine d'interrogation générale, et donc les interprétations qu'il me donnait, à savoir d'une part une partie de, disons, l'âme du mort qui devient une sorte de fantôme timide, désespéré de sa solitude et qui essaye d'attirer à lui les vivants. Et d'ailleurs, les rites funéraires ont ceci de caractéristique et de pathétique en même temps, qu'ils visent à séparer complètement le mort des vivants, ce qui est assez général dans les rites funéraires, mais en demandant aux morts de ne plus jamais contacter les vivants.
Il y a un instant, vous parliez du Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, les animaux étaient très, très présents, bien plus présents qu'aujourd'hui. Je vous propose d'écouter Michel Pastoureau, l'historien Michel Pastoureau, le médiéviste Michel Pastoureau, spécialiste des animaux.
Le Moyen-Âge est très bavard sur les animaux. Il est présent partout, dans tous les documents. L'historien ne manque pas de documentation. Alors l'animal est à la fois un objet de comparaison, de fascination, et puis aussi un repoussoir. Il y a deux courants, au fond, de pensée. L'un qui invite à ne pas confondre l'homme et l'animal. L'homme a été créé à l'image de Dieu. L'animal est une créature imparfaite, mise à son service. Mais il y a un autre courant qui est hérité, au fond, d'Aristote, qui explique qu'il y a une communauté des êtres vivants. Et donc, on peut se livrer à des comparaisons entre l'homme et l'animal, on peut même prendre l'animal comme modèle. Et les tenants de ce second courant, qui n'est pas majoritaire, aiment bien rappeler que Jésus est né dans une étable, c'est-à-dire qu'il est venu sur Terre aussi pour sauver les animaux. Ça, c'est une idée forte que l'on rencontre quand même assez souvent. Donc, il y a pour l'animal à la fois attrait et rejet, mais surtout curiosité et... Moi qui suis historien, je pense que aucune autre époque, en Europe en tout cas, n'a autant parlé de l'animal, représenté l'animal, été curieuse de l'animal.
Est-ce qu'on parlait aux animaux ou est-ce que c'était un monde à part ?
Non, on parlait aux animaux et on pensait même que certains étaient dotés de paroles, non seulement pour parler entre eux, mais pour s'adresser aux humains. Alors, je suis un spécialiste des représentations, des symboles de l'imaginaire, évidemment. C'est un terrain où on parle beaucoup quand on est un animal. Mais je crois que dans la vie quotidienne aussi, il y a un contact familier entre animaux domestiques et êtres humains. On s'aperçoit d'ailleurs que les sources d'archives nous donnent un grand nombre de noms propres donnés aux vaches, donnés aux cochons, donnés aux chevaux, bien sûr, mais à pas mal d'animaux domestiques ou familiers.
Philippe Descola, un commentaire sur les rapports qu'on entretenait avec les animaux au Moyen-Âge et comme le raconte si bien Michel Pastoureau.
Ah oui, il y a une chose qui me fascine et sur laquelle Michel Pastoureau a écrit, qui sont les procès d'animaux et qui montrent la place qu'occupaient les animaux dans la collectivité chrétienne de l'époque, puisque Il y avait deux types de procès, si je me souviens bien de ce que j'ai lu de lui. Des procès au civil, si l'on peut dire, lorsque, par exemple, les plus communs étaient contre des cochons qui avaient blessé ou tué des nourrissons. Et ils étaient condamné et pendu.
Il y avait un vrai procès avec un avocat.
Avec un avocat. Et lorsqu'ils étaient exécutés, on leur mettait quelquefois des vêtements.
On les habillait.
Et devant l'assemblée des cochons de leurs congénères pour que le châtiment fasse exemple.
Alors, je vous propose de continuer avec Michel Pastoureau. Je lui ai demandé pourquoi il y avait tant d'animaux sur les pictogrammes du Moyen-Âge et sur les blasons.
J'ai consacré ma thèse, moi, il y a bien longtemps, au bestiaire héraldique au Moyen-Âge. J'ai fait des statistiques. On peut dire que sur l'ensemble des armoiries médiévales connues, c'est-à-dire 1 million d'armoiries différentes pour l'Europe occidentale, un tiers à peu près ont pour figure un animal, avec une géographie à faire, un peu plus dans les pays germaniques, un peu moins dans les pays méditerranéens, mais en gros, une armoirie sur trois, avec un bestiaire qui n'est pas très diversifié. Il y a certains animaux qui occupent toute la place et puis d'autres qui sont plus discrets. C'est un héritage de ce qui a précédé, c'est-à-dire que l'héraldique est en partie l'héritière de pratiques emblématiques et insignologiques qui viennent du haut Moyen-Âge, du monde germano-scandinave, des pratiques emblématiques de l'Antiquité romaine. Bref, c'est un mélange de tout cela et il y avait déjà une grande présence de l'animal dans le monde des emblèmes, dans le monde des insignes, dans le monde des surnoms, dans l'anthroponymie, etc.
Alors sur ces blasons, sur les emblèmes, sur les insignes, il y a un animal qui revient très souvent, c'est le lion.
Oui, parce que les armoiries apparaissent au XIIe siècle, c'est-à-dire à l'époque où, dans la culture médiévale, le lion vient de devenir le roi des animaux à la place de l'ours. C'est tout récent, si je puis dire. Et donc, si les armoiries étaient apparues 2 ou 3 siècles plus tôt, la vedette du bestiaire héraldique aurait été l'ours, qui est l'ancien roi des animaux en Europe depuis le paléolithique. Et l'affaire est entendue au XIIe siècle. L'ours rentre dans le rang et cède son trône symbolique au lion. Et en même temps, c'est un animal dont on parle beaucoup dans la Bible et chez les auteurs grecs et romains, donc on a toutes sortes de documents pour le mettre en scène. Il n'est pas complètement exotique pour les populations médiévales. Les hommes et les femmes du Moyen-Âge voient des lions au quotidien. Dans leur église, il y a des lions partout, même dans n'importe quelle petite église de campagne. Il y a des lions peints, sculptés, racontés par les textes bibliques. Il y a des montreurs d'animaux qui se déplacent de foire en foire et de marché en marché, qui montrent des fauves, notamment des lions, ça n'est pas rare. Et puis, il y a des princes, des seigneurs, des abbayes, des villes même qui ont des ménageries fixes, si je puis dire. Et dans ces ménageries, il y a quelques animaux qui sont des vedettes. Le lion en fait partie.
Quelles sont les qualités qu'on prête au lion? Pourquoi est-ce qu'il est si présent? Il est fort, il est puissant?
Alors, comme tous les animaux, du point de vue symbolique, le lion est ambivalent. Il y a un bon et un mauvais lion. Quand on s'appuie d'ailleurs sur la Bible, sur l'Ancien Testament, il y a un bon et un mauvais lion. Alors, du point de vue symbolique, le lion représente naturellement la force. C'est un animal comme l'ours, invincible. D'ailleurs, les Romains, dans les Jeux du Cirque, avaient essayé de voir quel était le plus fort entre l'ours et le lion et avaient fait combattre lion contre ours. Et ça a donné ce qu'on appellerait, nous, match nul aujourd'hui. Donc le lion, c'est la force, c'est le courage. Et on ajoute souvent la générosité, la largesse, comme dit l'ancien français, pour mettre en scène une qualité courtoise à l'époque féodale. Il est partageux, il donne. Et puis, il a soin de ses petits, notamment quand ils naissent mort-nés, il les lèche et ils reviennent à la vie. C'est pas la lionne qui fait ça, c'est le mâle. Donc il est symbole de résurrection. Bref, il a énormément de qualités. À l'autre extrémité, il reste quand même coléreux, redoutable, parfois imprévisible. Il a aussi quelques défauts.
Donc les animaux très très présents à l'époque du Moyen-Âge, on a l'impression qu'aujourd'hui on est très loin de ce monde-là.
Oui, parce que les animaux étaient beaucoup plus présents dans la vie quotidienne qu'ils le sont maintenant dans la vie urbaine, en tout cas, même si on a l'occasion de voir de très nombreux documentaires animaliers à la télévision, ça ne donne pas l'intimité, au fond, avec ces animaux. Et ce que dit Michel Pastoureau est intéressant, c'est que même s'il n'y a pas de lion en Europe, il y a une familiarité avec sa représentation, ou éventuellement avec un lion, un malheureux lion promené par un montreur d'animal ou dans une ménagerie. Et donc le support symbolique des animaux pour en faire des symboles de qualité et qui sont transposables aux humains est quelque chose d'assez généralisé. Quand on dit encore maintenant « fort comme un lion », c'est un héritage de cette époque, oui.
Dans un instant, j'aimerais bien que vous nous racontiez un concept très intéressant, c'est l'invention de la nature.
Allez, c'est parti.
C'était la femme. Aloha baby.
Les aventuriers, une émission de Fabienne Chauvière sur France Inter.
Au Moyen-Âge, on considère comme domestique tous les animaux qui vivent dans la maison, domus, ou autour de la maison. Ça implique donc les animaux de la ferme, bien sûr, le chien, le chat, mais ça implique aussi le rat, la souris, le renard, qui est un grand habitué du poulailler, le corbeau, qui est là à côté de la maison, qui voit tout, qui sait tout, qui est probablement l'animal qui connaît le mieux l'être humain. Ça concerne la taupe, ça concerne la belette, d'ailleurs au Moyen-Âge, jusqu'au XIVe siècle, pour chasser les souris, on utilise des belettes, les Romains le faisaient déjà, jusqu'au XIIIe siècle, peut-être même XIVe siècle, on croit au dragon. Jusqu'à la fin du Moyen-Âge, on croit à la licorne, c'est un animal véritable, ça n'est vraiment qu'au XVIe siècle qu'on commence à douter. En revanche, sirène, phénix, on a cessé d'y croire assez tôt. Donc il faut périodiser quand on a affaire à ce type de questions.
C'était l'historien Michel Pastoureau, Philippe Descola. Il s'est passé quelque chose d'important à la fin du Moyen-Âge. On a inventé un concept qui n'existait pas avant, c'est celui de la nature.
Alors le mot nature existait, natura, qui est dérivé de nascor, de naître, qui traduisait l'équivalent en grec, la phousis, c'est-à-dire la propriété, la qualité d'un objet naturel, d'une plante par exemple, de se développer par elle-même, c'est-à-dire c'est sa nature propre. Et progressivement, on s'est intéressé, à partir de la Renaissance, à concevoir et à décrire un monde extérieur aux humains dans toute ses détails. C'est très notable, par exemple, dans la peinture. On commence à figurer avec une très grande vraisemblance des choses qu'on ne voyait pas dans les peintures médiévales, par exemple. Et progressivement, s'est constituée cette idée qu'il y a un ensemble des non-humains qui sont extérieurs aux humains, sur lesquels les humains peuvent et doivent même exercer un contrôle. L'idée est déjà présente dans la Bible lorsque Adam reçoit le privilège de nommer les animaux, c'est-à-dire au fond d'objectiver les animaux en les définissant par un nom. Et progressivement naît ce concept de nature qui est tout à fait singulier parce que nulle part ailleurs dans le monde on a imaginé qu'il pouvait y avoir un monde de réalité naturelle, d'être, de relations qui soit extérieur aux humains et sur lesquels les humains puissent établir un contrôle à la fois pour en tirer des ressources, pour en tirer aussi un plaisir esthétique et pour en tirer une satisfaction intellectuelle qui est celle de comprendre au fond le fonctionnement de cet ensemble. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau et qui caractérise l'Occident moderne. Au fond, la modernité, c'est quoi ? Ce sont des gens qui croient à l'existence de la nature.
Oui. Et quand on dit protéger la nature, alors on ne devrait pas dire protéger la nature ?
À partir du moment où on considère que la nature est une chose extérieure à soi et qu'on a détruit la nature, qu'on a détruit certains écosystèmes, il devient logique de vouloir protéger ou restaurer ce que l'on avait détruit. Il y a une chose qui est encore plus frappante pour moi, anthropologue, c'est de dire de populations autochtones comme les Achuar qui sont proches de la nature. Ils ne sont pas proches de la nature puisque la nature, pour eux, n'existe pas.
Mais
donc, ils font partie d'un ensemble, d'un monde beaucoup plus général où il y a certains types de relations entre humains et non-humains, mais qui ne sont pas des relations entre les humains et la nature.
Les Achuar sont tellement proches des animaux qu'ils les considèrent comme des cousins, on peut dire les choses comme ça.
Ils les considèrent comme ce que les anthropologues appellent des affins, c'est-à-dire des parents par alliance. Les animaux chassés, le gibier, sont dans les champs magiques qu'on leur adresse traités comme des beaux-frères, et les maîtres du gibier, à savoir les esprits qui contrôlent les destinées des animaux chassés et qui traitent ces animaux un peu comme un pasteur va traiter son troupeau, eux sont appelés beaux-pères. Et donc c'est un rapport d'alliance, de mariage, c'est-à-dire on peut épouser les gens qui sont des affins, alors que les plantes cultivées par les femmes sont traités comme des consanguins, comme des enfants en particulier. Donc alors, c'est deux catégories qui sont très importantes dans la sociologie achoua, dans la sociologie amazonienne, hein, qui distinguent les consanguins et les afins, qui sont des catégories aussi importantes pour nous que les cadres ou les ouvriers, par exemple, qui définissent des positions sociales.
Alors ça, je comprends bien, mais est-ce que c'est proche des mouvements antispécistes qu'on a aujourd'hui en Occident ?
Je pense que c'est très différent des mouvements antispécistes, parce que les mouvements antispécistes réagissent au traitement des animaux, à la fois dans les grands élevages industriels et aussi dans les conditions d'abattage, qui sont effectivement la plupart du temps indignes, et donc s'émeuvent dans une logique qui est plutôt une logique anthropocentrée, c'est-à-dire les humains sont indignes de leur humanité du fait de traiter les animaux avec une telle violence et en leur imposant des conditions de vie aussi monstrueuses. Et donc, ça n'implique pas pour un antispéciste de rêver la nuit qu'il entretient des rapports de consanguinité ou d'affinité avec une vache ou un mouton. Je pense que c'est des choses très différentes. Les antispécistes, c'est comme la protection de la nature. C'est un effet, c'est un résultat d'un type de traitement inhumain, industrialisé en quelque sorte, des animaux contre lesquels les humains réagissent à juste titre de façon morale.
Alors Philippe Descola, est-ce que vous pensez que le monde que nous vivons aujourd'hui va évoluer avec un regard sur le monde des animaux non humains différents, avec un rapprochement comme dans les civilisations que vous avez étudiées ou peut-être comme au Moyen-Âge ?
On peut l'espérer. J'ai pas de boule de cristal pour savoir comment les choses vont évoluer, mais je pense que c'est lié aussi à l'éducation, c'est-à-dire enseigner aux enfants, et c'est le rôle à la fois des parents et de l'école, que le monde au sein duquel ils vivent est composé d'un très grand nombre d'entités, d'êtres qui sont à la fois des animaux non humains, mais aussi des plantes, des artefacts avec lesquels nous, humains, devons interagir au quotidien, et non pas nous considérer comme, pour reprendre l'expression de Descartes, comme maître et possesseur. Il s'agit d'avoir des rapports de bonne intelligence et sinon égalitaire, parce que même les achouars, comme on le disait tout à l'heure, mangent les plantes avec lesquelles ils communiquent et les animaux qu'ils chassent, tout en communiquant avec eux. Donc, et ça, c'est fondé sur une révolution mentale, au fond, qui ne se décrète pas, qui suppose des transformations dans la façon que nous avons d'entrer en rapport avec le vivant, qui va sans doute prendre du temps, mais qui n'est pas complètement impossible d'imaginer.
Est-ce qu'on n'oublie pas un peu trop souvent que nous-mêmes, humains, sommes des animaux ?
Oui, bien sûr. C'est quand on parle des animaux humains et non humains, quelquefois, ça suscite l'étonnement, mais je pense qu'une des caractéristiques de ce que j'ai appelé le naturalisme, c'est-à-dire cette croyance dans l'idée de l'existence d'une nature extérieure aux humains, a comme parallèle le fait de la conscience que les humains aussi sont des animaux, mais qu'ils se distinguent de tous les autres entités vivantes par des capacités morales et cognitives qui les mettent à part de tous. Et ça aussi, c'est quelque chose d'exceptionnel, cette idée d'une séparation nette de cette exceptionnalité humaine vis-à-vis du reste des entités du monde.
Est-ce qu'elles sont encore nombreuses, ces sociétés dont vous nous avez parlé dans cet épisode ? Ces sociétés qui ne sont pas occidentales, qui ont un rapport avec, je ne peux pas dire la nature, mais avec le monde des animaux ?
Oui, elles sont encore nombreuses, sont bien sûr minoritaires à la surface de la planète, parce que nous n'avons cessé de les détruire, d'abord physiquement, et ensuite de détruire les milieux de vie où elles déploient leur existence. Mais elles continuent avec obstination à survivre à la périphérie, à la marge, au fond, du grand mouvement de destruction que ce que j'ai appelé le naturalisme et le capitalisme industriel, succédant au colonialisme, a imposé au reste de la planète. Et ces collectifs sont de plus en plus conscients, au fond, de leur originalité, puisque maintenant ils sont en contact avec le reste du monde, ils s'efforcent de défendre leur originalité. Ils s'efforcent aussi de défendre les territoires qu'ils occupent devant la voracité des grandes firmes internationales ou même des petits colons qui fuient la misère en s'installant sur leurs terres. Donc cette lutte les a rendus conscients de leur singularité et en même temps de ce qu'ils peuvent apporter au reste de l'humanité auquel nous devrions être attentifs, en tout cas plus attentifs que nous le sommes.
Merci beaucoup, beaucoup Philippe Descola. Merci d'être resté avec nous une heure. C'était vraiment passionnant.
Merci à vous.
Merci au médiéviste Michel Pastoureau. Son dernier livre, Blanc, histoire d'une couleur, est paru au Seuil. Et merci aussi à l'anthropologue Philippe Descola.
Il y a un livre plus savant qui s'appelle « Par-delà nature et culture » qui développe beaucoup des arguments que j'ai employés au cours de cette conversation. Et puis un livre qui est aussi plus accessible au grand public, qui est un livre de dialogue avec un jeune philosophe qui s'appelle « La composition des mondes » qui est d'une lecture aisée, disons.
Marilène Patoumatis est la conseillère scientifique des Saventuriers. Cette émission est réalisée par Jérôme Boulet. Attachée de production Caroline Protin, la programmation musicale est signée Djoubaka. La semaine prochaine, dans les Saventuriers, les animaux disparus que certains aimeraient ressusciter. D'ici là, vous pouvez écouter les Saventuriers en podcast puisque tous les épisodes de cette série sont disponibles sur l'appli Radio France.